Nous avons déjà évoqué le sujet de la prospection en B2B au travers d'un billet sur le cold calling et des chiffres assez alarmants nous avaient été communiqués par Jean-François Messier quant à l'efficacité des méthodes utilisées par le terrain. Jennifer Kemp avait rebondi sur un de nos échanges LinkedIn sur ce sujet de la prospection téléphonique et son calcul des 200 levées de coude, c'est-à-dire le nombre d'appels téléphoniques qu'un commercial doit passer pour réussir à parler à un client potentiel. Je l'ai donc interviewée et elle m'a mis sur la piste d'un concept que je ne connaissais pas, l'intelligence sociale, adaptation française du vocable social intelligence. Notons que Jennifer dirige l'agence FPC spécialisée en développement commercial à Rouen et elle enseigne également depuis 15 ans à l'ISD Flaubert, une école de commerce public à Rouen également, qui forme à un master de management du développement commercial. Bonjour, je suis Yann Gourvenec. Aujourd'hui, nous allons parler de prospection téléphonique en B2B et comment nous allons pouvoir utiliser l'intelligence sociale sans modération et avec beaucoup plus d'efficacité, et ceci avec Jennifer Kemp.
Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.
Prospection B2B et intelligence sociale. D'abord, commençons par définir l'intelligence sociale. C'est le fait d'être conscient des autres et capable de décoder avec précision les indices verbaux, non-verbaux et contextuels. Comprendre qu'il faut être disponible pour les autres afin de communiquer efficacement est essentiel pour établir un rapport et la confiance. C'est une définition qui a été donnée par Giva Samyanathan de Malaisie. Jennifer a apporté pas mal de nuances dans les discussions précédentes sur la prospection téléphonique en B2B et notamment sur la nécessité de lever le coude, pour reprendre l'expression de Jean-François, des centaines de fois pour obtenir un simple rendez-vous. Après tout, c'est une moyenne et donc cela ne veut pas dire grand-chose comme toutes les moyennes. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'une majorité de moutons répètent les mêmes gestes et les mêmes erreurs qu'il faut les suivre. Des méthodes existent pour bien prospecter par téléphone en B2B. Elle estimait dans cet échange que, sans nier la difficulté que rencontrent la plupart des commerciaux en prospection, des méthodes existent pour rendre la prospection B2B plus efficace. Pour elle, ce chiffre de levée de coude nécessaire peut en effet tomber à 10, à nuancer bien sûr selon les prospects ciblés, à condition de respecter sa méthode. J'ai voulu en savoir plus sur son approche. Jennifer et son équipe font de la prospection téléphonique tous les jours et estiment ne pas avoir besoin de passer autant d'appels que le calcul de Jean-François pour essayer d'obtenir un rendez-vous. L'approche est extrêmement importante, évidemment. Sa méthode s'oppose aux « méthodes d'abattage » qui consiste à taper dans le dur sans s'être un tant soit peu renseigné sur le prospect avant de l'appeler. Par contre, cela n'enlève rien au fait que le télémarketing soit très chronophage, qui nécessite beaucoup d'assiduité. C'est un travail de fond, de fourmi, qui nécessite de ne rien lâcher, souligne-t-elle. Se renseigner sur son client avant de l'appeler peut sembler une évidence. Alors, pourquoi tant de commerciaux tapent-ils dans le dur sans se préoccuper de savoir qui est le prospect qu'ils appellent ? En B2B, Jennifer estime que joindre un interlocuteur nécessite environ 4 à 6 contacts argumentés de l'heure. Un contact argumenté signifie échanger avec une personne pour puiser de l'information. Il est parfois possible que cela aboutisse à un rendez-vous, mais ce n'est pas forcément l'objectif initial. Cela dépend bien sûr de la cible. Il y a des campagnes où vous obtiendrez 5% de rendez-vous, et c'est très bien compte tenu de la cible. D'autres, vous en obtiendrez 15%. Souligne-t-elle. Bien souvent, le but de l'appel à la prospection téléphonique n'est pas de faire une vente, mais de prendre un rendez-vous. L'approche de Jennifer permet de prendre un rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui, a priori, n'a pas de besoin immédiat. Avant d'aller chercher le rendez-vous, le commercial en prospection téléphonique doit chercher à obtenir quelques informations en amont de l'appel pour savoir à qui il a affaire, sur quoi la personne réagit, etc. Cela va contribuer à briser la glace pour initier le contact téléphonique en reprenant par exemple une publication partagée par la personne ou une réaction à une publication. Or, bien souvent, le commercial reste sur son objectif qui est de prendre un rendez-vous et ne va pas comprendre que son interlocuteur refuse, car à ses yeux, son produit est vraiment le meilleur. Il a donc du mal à s'imaginer que le prospect ne soit pas émerveillé par le dit produit et cela crée une déception immense chez le vendeur. Pourtant, ce n'est pas si difficile. C'est un peu toujours la même histoire, il faut s'intéresser aux autres. Encore une évidence, alors pourquoi tant de commerciaux ont-ils du mal avec cela? Il y a juste besoin d'un premier échange, m'explique Jennifer, suivi par un envoi de documentation pour ensuite reprendre le contact un peu plus tard. Et là, ce sera différent parce qu'entre-temps, le commercial aura pris de l'information sur son prospect, nous explique-t-elle. C'est ce qui fait toute la différence. Quand nous recevons nous-mêmes des appels, nous n'avons pas envie que la personne nous dise que son produit ou service est le plus beau, le plus fort. Nous avons envie que la personne s'intéresse à nous et de constater que nous n'avons pas été choisis au hasard. Jennifer Kemp base sa méthode sur trois règles fondamentales qu'il nous faudra bien maîtriser si vous désirez progresser dans l'efficacité de votre prospection B2B. La règle numéro 1, en prospection téléphonique B2B, il faut créer du lien. La première règle est donc de se renseigner sur la personne qu'on va appeler. C'est important aussi pour l'image du vendeur et de sa société, car si nous appelons quelqu'un qui n'est pas concerné, cela donne une mauvaise image de celui qui appelle, souligne-t-elle. Il est important de clarifier que l'objectif de l'appel est en premier lieu de créer du lien avec ses interlocuteurs. Pour se différencier et marquer les esprits, il faut avoir ainsi discuté avec la personne, avoir échangé avec elle. Règle numéro 2, en prospection téléphonique, recueillir un maximum d'informations. L'objectif de l'appel de prospection n'est pas de parler de soi, mais de faire parler le client. C'est la base du marketing. Plus nous en saurons sur lui, plus nous saurons lui vendre ce dont il a besoin. Il faut donc lui poser des questions, recueillir un maximum d'informations sur ce qu'il fait, comment il travaille, avec qui, etc. Il pourra ainsi nous dire quels sont ses besoins, ses projets. Une bonne astuce, notamment en vente complexe, est de se préoccuper de votre interlocuteur en lui montrant que vous êtes à l'écoute des « problèmes qui l'empêchent de dormir la nuit ». C'est la phrase magique, sortie de la méthode « solution selling » de Michael Bosworth, qui fait mouche la plupart du temps. Les clients, j'ai été de l'autre côté de la barrière pendant 15 ans, sont obsédés par leurs problèmes et non par vos solutions. Demandez-leur ce qui les empêche de dormir la nuit et vous serez surpris du résultat. Car ils adorent, en général, expliquer leurs difficultés, car peu nombreux sont les commerciaux qui sont prêts à les aider. Alors mettez-vous à leur place, quand vous en trouvez un, vous ne le lâchez plus. Règle 3. En prospection téléphonique, se préparer mentalement. Jennifer conseille enfin de se préparer à la prospection téléphonique en sachant que la journée sera un peu pénible parfois, qu'il y aura sans doute des interlocuteurs pas toujours sympathiques, qui ne voudront pas nous parler, qui ne seront pas les bonnes personnes, etc. Mais il y aura aussi de belles rencontres, de beaux échanges et des choses intéressantes. Il faut y être préparé et ne pas se décourager à chaque fois qu'on sera confronté à un refus. Le script d'appel sera très utile aussi pour servir de fil conducteur sur ce que nous avons à dire, à demander comment se présenter, ce que la personne doit entendre, les informations que nous cherchons à obtenir. Il ne s'agit pas de lire bêtement un script, nous explique-t-elle, mais plutôt de savoir y revenir si notre interlocuteur nous déstabilise à un moment donné. L'importance de l'intelligence sociale pour faire parler nos interlocuteurs. Jennifer donne également des cours en école de commerce sur l'intelligence sociale afin d'expliquer aux futurs commerciaux comment s'adapter aux autres. En télémarketing, nous dit-elle, l'intelligence sociale est très utile. Si quelqu'un est pressé, on va lui parler, mais en tenant compte qu'on doit se dépêcher. Si quelqu'un est sur la retenue, on va essayer de briser un peu la glace. C'est tout simplement de la relation humaine, souligne-t-elle. La prospection téléphonique, c'est du marketing relationnel et la communication avant d'être de la vente pour s'adapter à l'autre et à sa manière de réagir. N'allez pas croire cependant que nous sommes dans le monde des bisounours. La prospection téléphonique est compliquée, souligne-t-elle. On ne prend pas des rendez-vous et on n'obtient pas des informations toujours aussi facilement, mais à partir du moment où vous tirez le fil, les gens sont partants pour vous raconter leurs problèmes. Tout dépend de la manière dont vous les approchez. C'est là que le doigté va être important entre le script et la conversation. Le script est là pour le pense-bête, mais l'interlocuteur ne doit pas s'en apercevoir. En conclusion, quelques règles simples peuvent vous éviter de vous épuiser en essayant de prendre des rendez-vous lors de vos sessions de prospection B2B. Hélas, Les choses simples sont aussi les plus compliquées à mettre en œuvre, et bien que s'intéresser aux autres semble être une injonction facile, elle est au contraire très ardue pour la plupart des commerciaux qui, stressés par leur métier et leurs produits, ont beaucoup de mal à se détacher de leurs propres préoccupations pour s'intéresser à celles des autres. Certainement que la connaissance des autres commence par ce précepte socratique qui consiste à tenter de se connaître soi-même. Le Master de Management du Développement Commercial, où enseigne Jennifer, a pour objectif de former des commerciaux et des managers commerciaux des gens de terrain. Cela est important à souligner car c'est là une des rares écoles en France à proposer un master portant sur une formation de terrain pour les gens qui vont réellement vendre en vente complexe. Et comme on le sait, les postes de commerciaux sont nombreux à pourvoir. Maintenant, futurs jeunes recrues de la vente, vous savez dans quelle école postuler. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jennifer pour écouter l'intégralité de notre échange. Je suis avec Jennifer Kemp. Bonjour Jennifer, vous êtes à Rouen. La raison pour laquelle on se retrouve ici, c'est que vous avez rebondi sur un de nos échanges récents sur la prospection téléphonique. Et le point de départ, c'était que la prospection téléphonique prend énormément de temps et notamment beaucoup d'essais pour arriver à un résultat. Et vous avez rebondi là-dessus en nous disant « oui, mais c'est parce que vous vous y prenez mal ». Et voilà, c'est ce qui m'a interpellé. Et je me suis dit « tiens, on va faire une autre interview avec Jennifer pour savoir comment on s'y prend bien et prendre votre feedback là-dessus ».
Effectivement, pour en faire tous les jours, on n'a pas besoin de passer autant d'appels pour essayer d'avoir quelqu'un. L'approche est extrêmement importante, évidemment. Par contre, ça n'enlève rien que le télémarketing est très chronophage, ça demande beaucoup d'assiduité, c'est du travail de fond, de fourmi, de rien lâcher en fait. Mais on arrive à avoir des interlocuteurs. En B2B, nous on estime, c'est comme ça qu'on fait nos devis, hein. Sur du B2B, pour joindre un interlocuteur, c'est entre 4 et 6 contacts argumentés de l'heure.
Oui.
Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va peut-être passer 30-40 appels dans l'heure, mais pour avoir 6 personnes, quoi, 4 ou 6 personnes. Tout dépend de la cible.
Donc là, on n'est pas du tout sur la métrique que nous donnait Jean-François, qui était une moyenne, hein, donc forcément ça n'inclut pas votre bonne pratique, et qui nous disait 323 levées de coude pour un rendez-vous. Là, on est plutôt sur 40 pour 4 rendez-vous, donc ça serait plutôt 10.
Alors, je parle de contact argumenté, hein. Là, je ne parle pas de rendez-vous, c'est-à-dire argumenté, c'est qu'on échange avec une personne avec qui on va prendre de l'information, etc. Et pour certains, ça va aboutir à un rendez-vous. Donc tout dépend, encore une fois, les ratios ne sont pas les mêmes. Il y a des campagnes où vous allez sortir à 5% de rendez-vous et c'est très très bien compte tenu de la cible. Il y en a d'autres où vous allez en faire 15%. Donc, vous voyez, c'est vraiment… Mais 300, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que vous tapez un peu partout.
Et force est de reconnaître qu'il y a des gens qui tapent vraiment de partout, comme vous dites.
Clairement.
Parce qu'on en fait les frais tous les jours. Ce genre d'appel.
Et des fois, je me suis même, parce que moi, j'aime beaucoup, écouter les gens en parler, voir un peu comment ils traitent les objections, quelle est leur approche, etc. Et je fais des objections, évidemment. Je suis un petit peu perverse là-dessus. Et je me suis déjà même fait raccrocher au nez. Parce que j'ai insisté, j'ai posé des questions, j'ai dit des choses qu'il fallait pas. Donc, on m'a raccroché au nez.
Oui.
Ces personnes-là sont quand même enregistrées. Hein, donc, j'ai trouvé ça formidable.
Oui, absolument. Et effectivement, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et ce que j'ai trouvé particulièrement croustillant, c'est la personne qui vous a appelé pour vous vendre de la prospection téléphonique.
Ah oui, j'en reçois régulièrement ça. Ouais. Prospection téléphonique, par mail, par téléphone. C'est, en fait, il n'y a pas du tout de recherche en amont, quoi. Il y a un listing. J'imagine qu'il y a un listing qui doit défiler. On appelle et puis, on y va au hasard. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas. Donc il n'y a pas du tout. Alors effectivement, nous on va être sur le papier, on va être répertorié comme une agence de publicité. Bon, néanmoins, on a un site internet, on est présent sur les réseaux sociaux. Je pense que quelqu'un qui fait une petite recherche en amont, il va tout de suite comprendre ce qu'on fait, hein. Normalement. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais quand je travaille en prospection téléphonique.
Donc ça, c'est la première règle, c'est que finalement, se renseigner un peu sur la personne qu'on va appeler, peut-être pas une mauvaise
idée. C'est une question d'image aussi, hein. Alors nous, quand on le fait pour nos clients, on le fait pour nous, pour nos clients. Enfin, je veux dire, quand on appelle quelqu'un qui n'est pas concerné, et c'est un gros compte, bah, ça donne une mauvaise image de celui qui appelle. Donc il y a aussi cette notion-là. Ça prend pas plus de temps que d'aller vérifier, quoi.
Alors, si on, est-ce qu'on peut balayer ensemble les choses à faire, les choses à ne pas faire ? Il y en a peut-être beaucoup. Alors, peut-être les trois choses à faire, les trois choses à ne pas faire qui sont les plus importantes.
Alors, nous, la première chose qu'on dit toujours, c'est d'abord quel est l'objectif de l'appel ? Alors, comme ça, dit comme ça, c'est facile. Hein, les gens vont dire, bah, moi, je veux prendre des rendez-vous, je veux vendre des affaires, etc. Mais l'objectif de l'appel, en soi, c'est pas forcément celui-ci. L'objectif de l'appel, ça va être de créer du lien. Ça va être de créer un lien. C'est comme tout, c'est comme la communication, c'est comme le marketing. Si on veut se différencier et marquer l'esprit, bah, il faut avoir discuté avec la personne, échanger avec elle. Et puis après, bah, c'est le travail marketing, hein, c'est le deuxième aspect, c'est d'aller chercher un maximum d'informations. Mon objectif, c'est pas de lui parler de moi ou de mon client, c'est de lui parler de lui et le faire parler de lui. Parce que bah, c'est la base du marketing. Plus j'en sais sur lui, plus derrière, je vais pouvoir, entre guillemets, lui vendre ce dont il a besoin. Donc, le seul moyen aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'info. Et moi, mon objectif, j'ai tout un champ de questions à poser. Je veux savoir un maximum d'informations, qui il est, ce qu'il fait, comment il travaille, avec qui. Parce que si vous aviez bien la chose, il est capable de vous le dire. Est-ce qu'il a des projets, des besoins, etc. Tout ce qu'on a besoin pour travailler ensuite. Donc ça, c'est vraiment déjà les deux bonnes pratiques. C'est définir son objectif sans penser forcément à prendre un rendez-vous.
Oui.
Aller chercher de l'information. Et puis, troisième chose, c'est aussi de se préparer à ce genre de choses. On sait que c'est très souvent quelque chose de pénible, le télémarketing. Hein. Faut se mettre dedans, faut se motiver, c'est pas rigolo, on sait que ça va être une journée difficile. Donc faut se préparer parce qu'on sait que ça fait partie du jeu. On va avoir des gens pas sympas, on va avoir des gens qui n'ont pas le temps de nous parler, on va avoir des gens qui ne sont pas les bonnes personnes, etc., etc. Mais au milieu de tout ça, bah, y a des belles rencontres, il y a des beaux échanges, il y a des choses intéressantes qui se passent. Le tout, c'est d'y être préparé. Faut pas se décourager à chaque fois qu'on a des refus. Bah oui, s'il faut 9 refus pour avoir un rendez-vous, bah, ça fait partie du job, c'est comme ça. Et le tout, c'est de le savoir.
9 pour 1, c'est encore raisonnable. 323 pour 1, là, c'est un petit peu plus difficile. Et le commercial standard pourrait apporter des objections à tous ces points-là. L'objectif de l'appel, il pourrait vous dire, mon objectif de l'appel, c'est de faire une vente. C'est ce qu'on m'a demandé.
Alors, parce que souvent, le commercial, on ne va pas lui demander de faire une vente, on va lui demander de prendre rendez-vous. Mm-hmm. Très souvent, ça va être ça. Sauf qu'effectivement, son objectif, c'est uniquement de prendre rendez-vous. Donc, dans l'approche, il cherche à prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne sait pas qui il est, qui, a priori, n'a pas de besoin immédiat. Enfin, tout ça, c'est censé être le travail que va faire le commercial en face à face. Donc, avant d'aller chercher le rendez-vous, bah, encore une fois, s'il va chercher un petit peu plus d'infos en amont de l'appel pour savoir à qui il a affaire, sur quoi il réagit, quelle est l'entreprise, enfin, etc., etc., déjà, ça va aussi briser la glace quand il va prendre son téléphone. J'ai vu que, tiens, vous faisiez ça, vous avez publié telle ou telle chose, comme vous l'avez fait avec moi en me disant, tiens, vous avez rebondi sur tel sujet. Et c'est exactement ça, en fait. Et lui, le commercial, très souvent, il va dire, bah, moi, mon objectif, c'est de prendre un rendez-vous, donc je veux prendre un rendez-vous, quoi. Et il va pas démordre de ça. Et il va même vous faire le listing de tout ce qu'il fait, tout ce qui est bien. Et il va pas comprendre que vous lui disiez non, parce que pour lui, son produit, il est top. Son service, il est top. Il sait pas si vous en avez besoin, mais il est top. Et c'est là où, très souvent, bah, il y a de la déception. Parce que, bah oui, j'arrive pas à prendre un rendez-vous. Alors que peut-être qu'il y a peut-être besoin d'un premier échange. On va envoyer une petite doc derrière, puis on va reprendre contact un peu plus tard. Et là, ça sera différent. Parce qu'entre-temps, j'aurais pris de l'info, j'aurais été regardée, etc. Et c'est ça qui fait la différence. Encore une fois, j'ai pas envie qu'on me parle. Moi, quand je reçois un appel, j'ai pas envie que la personne, elle me dise « Je suis le plus beau, le plus fort, je vends ci, je vends ça. » Je m'en fiche. Moi, j'ai envie qu'il me fasse voir qu'il s'intéresse à moi et que potentiellement, il m'a pas choisi au hasard.
J'ai eu une expérience quand j'étais client, c'est il y a un commercial qui vient, enfin un commercial qui était un entrepreneur. Donc, comme je suis gentil, je l'ai accueilli, j'ai écouté son pitch, ça m'intéressait pas, je sais plus pour quelle raison, mais ça m'intéressait pas. Et comme il était très pressant, il y a un moment, il m'a dit, enfin, il insistait pour que j'achète son bidule et j'ai essayé de trouver une solution pour m'en débarrasser. Je sais plus ce que j'ai dit, que ça devait être trop cher ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai dit n'importe quoi pour pouvoir m'en débarrasser. Et là, il a commencé à m'insulter. Donc le troisième point aussi, si je me fais toujours l'avocat du diable, préparer l'interview, c'est pas toujours simple non plus, parce qu'on sait pas exactement à quoi s'attendre, puisque justement on tape dans le dur, donc c'est pas facile.
Alors se préparer, il y a deux choses. Il y a se préparer, on va dire mentalement, c'est-à-dire se dire, bah, tel jour je fais de la prospection. Alors pour ceux qui vraiment c'est quelque chose d'horrible à faire, c'est de se dire, eh ben voilà, cette journée-là c'est ma journée où je suis dans ma prospection et je ne fais que ça et je suis à fond dedans. Et puis c'est fait. Et puis il y a la notion aussi de se préparer. Bah, c'est tout bête, hein, c'est le béaba, mais avoir on appelle ça un script d'appel, savoir ce que j'ai à dire, ce que j'ai à demander. Ça paraît tellement évident de le faire. Nous, on fait du télémarketing depuis 30 ans. Pour autant, ça n'empêche qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle mission qui démarre pour un client ou même pour nous, on a un script d'appel qui est préparé. C'est-à-dire que je prépare, voilà comment on se présente, voilà ce que la personne doit entendre et voilà ce qu'on cherche à avoir comme information. Parce que sinon, je défie n'importe qui, même qui va en freestyle, qui est très sûr de lui, de se faire déstabiliser très vite. Donc, le script d'appel, l'objectif, c'est pas de lire bêtement ce qu'il y a écrit dessus. C'est simplement avoir un fil conducteur et savoir où j'en suis si on m'interrompt, quoi. Et puis c'est toujours de revenir, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je veux que la personne ait entendu une fois que j'ai fini mon appel et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Donc c'est le seul moyen, c'est d'avoir un autre âme.
Ça peut être aussi une objection, faire un script d'appel. Un script d'appel, ça peut être aussi terriblement irritant. Et alors déjà, vous avez une phase de connexion qui dure à peu près une seconde, vous entendez que l'appel va se connecter, donc déjà c'est très bizarre, vous dites « oh non, ça y est, il y a quelqu'un qui va me débiter un script », et boum, ça manque pas, et il y a quelqu'un qui vient vous débiter, et ça c'est, là c'est, ça m'étonnerait pas qu'on soit dans les 450 appels pour un rendez-vous. Quoi,
parce ça que... c'est de l'abattage téléphonique, hein. Oui. Pour moi c'est pas du télémarketing, alors moi j'ai un petit problème, et ça fait toujours rire tout le monde, mais par exemple pour moi le terme « phoning » dans mon métier est très péjoratif. Mmh. Moi, je n'utilise jamais ce terme de phoning. Faire du phoning, pour moi, je l'assimile à faire de l'abattage téléphonique. Faire du télémarketing, pour moi, il y a le terme de marketing dedans. Donc, il y a une notion de relationnel. Et vraiment, pour moi, c'est très important. Quand on me dit, vous êtes une société de phoning, non, pas du tout. Moi, je suis une agence de marketing et je fais du marketing téléphonique. Ça n'a pas du tout la même chose. Et ça fait aussi partie de l'approche. C'est comme quand on dit avoir le sourire au téléphone, etc. Alors, c'est pas sourire bêtement, mais ça s'entend. Quelqu'un qui est jovial et map, ça donne plus envie que quelqu'un qui vient juste vous lire ce qu'elle a écrit sur sa feuille. Et tout ça, ça s'entend. C'est des petites choses, mais ça fait la différence au bout du compte, en fait.
Ouais. Mais ouais, une chose qui m'étonne quand même, c'est ces sociétés d'abattage, comme vous dites. Comment ça peut encore fonctionner, un truc comme ça, depuis le temps que ça me...
Parce que d'abord, il y a une question de prix. C'est une question de prix, hein. Aujourd'hui, quand vous cherchez... les sociétés qui travaillent aujourd'hui avec des petites structures comme la nôtre qui travaillent plutôt sur du très qualitatif, elles ne viennent pas nous chercher pour du prix, elles viennent nous chercher pour du très qualitatif. Ceux qui veulent du prix, jamais me consultent. Parce qu'ils veulent du prix. Donc, le prix, c'est comme pour tout. Vous avez le prix de ce que vous payez. Ouais. Donc, quand votre principale motivation, c'est de payer pas cher, vous allez là où ça coûte pas cher. Et puis voilà. Et vous avez les résultats qui vont avec. Enfin, c'est toujours pareil. Nous, quand on dit toujours, c'est on vend du temps passé. On vous vend pas des appels, on vous vend du temps passé à discuter avec des personnes qui vont nous donner de l'information et avec qui on va échanger. Donc c'est pas la même chose. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est des gens qui vont avoir la possibilité de faire du volume et que on cherche pas, encore une fois, le qualitatif, on cherche à faire du volume. Ouais. Donc quand on veut du volume et du prix, effectivement on va chercher des plateformes à l'étranger, hein, clairement, parce que c'est là où on a le prix et le volume.
Alors j'entends quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, c'est que il faut poser des questions. Alors ça c'est quelque chose qui paralyse aussi le commercial standard. C'est on lui a pas appris à poser des questions, on lui a appris à réciter sa leçon et à vendre son catalogue.
Alors là, je peux pas être d'accord. Je peux pas être d'accord parce que moi, je suis intervenante en école de commerce. Le commercial, aujourd'hui, il est vraiment dans une logique, effectivement, de s'intéresser à son client. Bah, il y a toutes les techniques hein, qu'on connaît, les sous-cas et compagnie, où on leur demande de poser des questions. Alors, c'est vrai qu'il y en a encore qui se laissent intimider et qui oublient cette phase et vont vouloir nous parler de leurs produits. Mais vraiment, c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on forme les commerciaux. Enfin, c'est à comprendre un besoin, détecter un besoin. Oh, et ils savent le faire en face à face. Malheureusement, ils savent moins le faire au téléphone. Et on en revient toujours à cette notion d'objectif, parce que l'objectif pour lui, c'est de prendre un rendez-vous. Et ça, il fera quand il sera en face à face. Sauf que s'il ne le fait pas au téléphone, il n'aura jamais l'occasion de le faire en face à face. Et c'est ça la différence.
D'accord. Bon, j'ai dû avoir une mauvaise expérience, alors parce que moi, j'en ai pas vu beaucoup qui étaient capables de faire autre chose. Mais bon, je n'ai que 15 ans d'expérience comme client, hein, donc.
Okay. C'est dommage, ça veut dire qu'il y a des choses à faire.
Je pense, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Et là, je parle de vente complexe, je parle pas de vente d'aspirateur. Enfin, j'ai rien contre des aspirateurs parce que j'en ai vendu, donc c'est pas péjoratif. Enfin bon, c'est pas simple pour les commerciaux quand même. C'est finalement, vous dites vous vendez du temps, vous vendez pas que du temps en fait, vous vendez aussi du savoir-faire.
Tout à fait. Ouais.
C'est difficile d'aller vendre à la place de quelqu'un qui certainement a déjà du mal à vendre son truc d'ailleurs. Donc comment vous arrivez à vous mettre à la place de ces personnes-là? Ça demande du personnel très qualifié de pouvoir faire ça.
On ne va pas vendre à sa place. Nous, on dit toujours, on va lui déblayer le terrain. C'est-à-dire qu'on va essayer de lui faciliter toute cette partie qui est chronophage, qui demande de l'assiduité, parce que le commercial, il commence sa journée, il commence là, il regarde ses mails, il fait ceci, machin, lui demande un devis, etc. Et en permanence, il est plus dedans, il est obligé de se déconnecter toujours. Notre travail à nous, c'est d'être... On a des gens qui font ça 8 heures par jour. Alors, ils passent d'une mission à une autre, ils font pas la même chose toute la journée, on s'adapte. Mais c'est une vraie gymnastique et c'est de l'assiduité en fait. Et c'est aussi ça qui fait que ça permet d'avoir du résultat. Après, effectivement, il faut des personnes, au-delà d'être hyper bien formées, j'ai envie de dire, c'est même pas ça, c'est avoir des personnes qui ont compris pourquoi elles font cet appel. Quel est le but de l'appel? C'est-à-dire que sinon, c'est une plaie pour elle. Hein. Enfin, je dis elle parce que nous, c'est très féminin ici. Mais si son but, c'est juste de passer des appels, décrocher son téléphone, franchement, c'est très chiant pour la personne et ça n'a aucun intérêt. Par contre, savoir que je le fais dans tel objectif, pour ça, comme ça, etc., c'est pas du tout la même chose. Et souvent, elles vont avoir des informations où les gens disent « Ah ben non, c'est vrai que vous avez beaucoup d'informations. » Oui, parce que les gens nous parlent. Donc, simplement s'intéresser à l'autre, une fois que vous avez compris ça, vous n'avez pas besoin d'être un super télémarketeur. Hein. C'est le béaba du relationnel dans la vraie vie ou…
Oui.
Enfin, je veux dire, c'est l'approche que vous avez eue avec moi, quoi.
Oui, bien sûr. Bon, moi, c'est un peu particulier parce que je ne sais pas faire autre chose. Donc,
en m'approchant, vous m'avez valorisé. Donc, forcément, je me suis dit, ouais, c'est génial, ça me fait plaisir. Bah, c'est exactement la même chose qu'on va faire au téléphone. C'est exactement pareil. Il faut juste avoir compris ça.
Prenons le commercial standard, qui est, à mon avis, là, je suis un peu pas tellement d'accord avec vous. Je pense que l'immense majorité, ils ont peut-être eu le cours, ils ont certainement été en cours.
Ils n'ont pas tous eu en cours, c'est
mais
pour
ça. Mais ils n'ont pas dû le comprendre. j'en ai encore quelques exemples, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'en ai encore eu un beau. C'est assez effrayant, quoi. On nous envoie des armées de gens qui nous envoient des messages tous les jours, sans même savoir qui on est, ni pourquoi on est là, ni, enfin. C'est effrayant. Et c'est pas en France. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'en France. Les bourrins, on les trouve partout. Alors donc, c'est quand même intéressant ce que vous racontez, parce que c'est pas facile de décrocher son téléphone et de faire parler quelqu'un. Waouh, comment on fait ça? C'est dur.
Alors, c'est de l'empathie déjà. Enfin, c'est une réelle empathie. Hein. Il y a toute une façon en fait d'amener. J'aimerais avoir l'occasion de vous faire une démonstration à un moment donné, parce que c'est vrai que dans l'approche, que j'ai tout à l'heure, le ton que vous allez employer, le dynamisme que vous allez mettre, déjà ça va conditionner la façon dont vous allez être reçu. Alors attention, hein, c'est pas tout beau, tout rose, hein, ce que je suis en train de raconter, hein, parce qu'il y a la phase du standard, etc., etc. Mais en même temps, si ça fait 30 ans qu'on le fait pour des commerciaux, c'est qu'effectivement, il y a un problème et que, a priori, on va avoir une compétence que le commercial ne va pas avoir. Mais parce que à force d'en faire, on connaît les astuces, on connaît les trucs, on sait comment. C'est exactement. Je reviens sur mes écoles de commerce. Je fais le lien avec ça parce que c'est exactement ça. Aujourd'hui, dans les écoles où je donne des cours, on donne des cours d'intelligence sociale. C'est-à-dire que là, j'ai un cours, c'est de l'intelligence sociale. J'explique à des commerciaux comment s'adapter aux autres. Ben, c'est exactement ce qu'on fait en télémarketing. On s'adapte aux autres. On voit quelqu'un qui est pressé, ben, on va se dépêcher, mais on va bien lui parler, mais on va tenir compte de du fait qu'il est un peu pressé. On va voir quelqu'un qui est un petit peu sur la retenue, ben, on va essayer de briser un peu la glace. Enfin, tout ça, c'est un peu de la psychologie, en fait. C'est de la relation humaine, tout simplement. C'est pour ça que je dis, c'est du marketing relationnel et de la communication. D'accord. Avant d'être de la vente, c'est du marketing relationnel et de la communication. S'adapter à l'autre, comment il réagit. Alors encore une fois, je veux pas faire c'est le monde des bisounours, c'est tout est facile, hein, parce que c'est compliqué. On prend pas des rendez-vous aussi facilement, on n'a pas des informations toujours aussi facilement. Mais à partir du moment où vous tirez le fil, je peux vous assurer, on fait des enquêtes et les clients pourront vous le justifier. On a une enquête là sur une cible d'agriculteurs, les appels durent 25 minutes.
Ouais.
Et le client à la base, il se dit mais oui, mais jamais ils vous répondront jamais, c'est trop long. Laissez-nous faire. Vous verrez bien. Et on a des entretiens qui durent 25 minutes. Parce que quand vous commencez à tirer le fil, bah les gens, ils vous racontent. Ils aiment bien vous raconter. Ils sont contents de vous raconter.
Et ça, c'est une bonne astuce. C'est faire une étude. C'est pas exactement pareil que d'essayer de vendre un produit.
Mais à la fin, vous faites quoi quand vous faites une étude?
Bien sûr. On le fait souvent, oui.
Bien sûr. Mais le fait de tirer le fil, il faut vraiment, que ce soit du professionnel ou du particulier, c'est un peu plus rare sur du particulier parce qu'on travaille moins, mais les gens peuvent vous raconter, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui.
Ça va très loin. Mais ça dépend comment vous les approchez.
C'est rassurant quand on est gentil avec eux, ils vous donnent tout en fait.
C'est des relations humaines en fait.
Bien sûr. Pour avoir été client assez longtemps, je sais que le client aime bien parler et aime bien parler de lui. Et en fait, c'est surtout ça en fait qui l'intéresse.
Et puis ça dépend comment vous amenez les questions. C'est dans la façon de le faire. Ah oui, d'accord. Ah mais oui. Mais vous me disiez que. Et donc, en fait, faut que c'est à l'air d'une conversation. C'est pas une enquête. C'est une conversation. Et puis, au fur et à mesure, la personne, elle se rend même plus compte qu'elle est dans une enquête. Elle est en train de nous expliquer ce qu'elle est en train de vivre. Et du coup, ça passe.
C'est là que le doigté va être important entre le script et la conversation. Que le script soit là pour le pense-bête, mais qu'on ne le voit pas, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, on dit toujours au client, on dit, tout est écrit, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai simplement besoin que vous me validiez que j'utilise les bons mots, les bons termes, etc., techniquement. Mais derrière, on ne va pas le lire bêtement. Et à partir de là, puis on ne se pose même plus la question. Il dit, oui, bon, c'est bon. Puis une fois qu'il a délégué, il ne se pose plus la question.
D'accord. Intéressant. Je pense qu'on a... On a fait le tour de la question. Je voudrais juste vous arrêter pour finir cette interview parce que ça m'a interpellé. Vous m'avez dit que vous enseignez dans une école de commerce. Alors ça m'a fait plaisir parce que dans les temps immémoriaux où j'ai été étudiant, effectivement, on appelait ça des écoles de commerce. Maintenant, j'ai l'impression qu'on appelle ça des écoles de management. Alors, quelle est cette école merveilleuse où on fait encore du commerce et pas du management ?
Alors, c'est une école que j'ai moi-même faite
il y a quelques années.
Et c'était déjà à l'époque. Alors, c'était pas un master, hein, c'était des bacs plus 4. Et c'était responsable du développement commercial.
D'accord.
L'école a évolué avec les besoins, etc., etc. Donc, ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne dans cette école. Et il y a effectivement un master qui est chargé développement commercial. L'objectif, c'est vraiment de former des commerciaux, des responsables commerciaux, des managers commerciaux, mais des gens de terrain.
Elle
s'appelle l'ISD Flaubert. C'est une école publique. Hein. Je dis école de commerce, mais c'est une école publique qui est à Rouen et qui est vraiment une des rares écoles en France, master, à faire une formation terrain pour des gens qui vont vraiment vendre. Vente complexe, je ne parle pas de vente premier niveau, je parle de vente complexe. Et c'est une formation qui existe depuis quasiment 30 ans.
Fantastique. On l'a cherché, vous l'aviez faite pour
manager du développement commercial, ISD Flaubert à Rouen. Voilà, ils seront très contents. Mais il y a la même chose, vous avez la même chose sur la communication et sur l'expert digital.
Très bien.
Mais c'est de l'opérationnel et c'est ça qui est important.
Eh ben oui, je pense qu'il y a besoin, surtout maintenant, dans cette période post-Covid, comme nous l'a expliqué le monsieur de Manpower pendant le salon Vivatech, que j'ai publié les micro-trottoirs ce matin sur le site de Sparkline. Voilà, ben Jennifer, merci. C'était très sympathique et on a appris plein de choses. Merci pour votre partage d'expérience et puis bonne continuation.
Merci beaucoup.
Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.